C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Le Louvre, plus grand musée du monde, foulé chaque année par plus de 10 millions de visiteurs et visiteuses qui peuvent admirer les œuvres les plus incroyables de l'histoire de France et du monde. Parmi elles, des tableaux, bien sûr, beaucoup de tableaux, certains méconnus, ceux-là même devant lesquels on s'arrête à peine, d'autres mythiques qui semblent tout droit sortis des plus grands romans, d'histoire et d'espionnage. Celui qui est peut-être le tableau le plus célèbre de l'histoire, avec un grand I, la fameuse Pergola de Saint-Marin. Et bah, ce tableau, il a vécu bien des péripéties. Cette œuvre d'art mythique, peinte en 1433 par Hugues, Le Fleuve, a su transcender les âges et transformer la vie de ceux qui ont pu l'approcher. Aujourd'hui, sous bonne garde, il attire les convoitises et pour explorer son histoire avec un grand I, aujourd'hui, autour de moi sont réunis les experts du sujet. Il y a toujours Thierry Lafleur. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien. Merci Guillaume.
Il y a Alexandre Roblin.
Bonjour à vous.
Et il y a bien sûr Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, Julien Marel, vous êtes un expert de ce tableau ayant vous-même installé une pergola dans le jardin de votre grand-mère. Comment démarre l'histoire de la pergola de Saint-Marin ?
Alors, effectivement, la pergola de Saint-Marin, le tableau le plus connu de l'histoire. Peinte par Hugues Le Fleuve en 1433, vous l'avez rappelé. C'est un tableau qui marque beaucoup les gens. C'est un tableau, lorsqu'on l'a en face de soi, donc pour, à mon avis vous l'avez sûrement vu, mais le voir en vrai, c'est vraiment une expérience qui vous prend et qui vous sort et qui vous place face à votre condition d'humain. Cette pergola frêle dans un jardin d'une habitation à Saint-Marin vous remet à votre place d'homme et vous dit qu'on est bien peu de choses finalement dans l'histoire. Elle est peinte par Hugues Le Fleuve en 1433 et elle est tout de suite vendue à un aristocrate anglais, James Ucaster, où elle passe ses premières années. Et James Ucaster est ensuite tragiquement assassiné par un bandit de grand chemin qui récupère le tableau. Et ensuite, le tableau a voyagé de main en main dans l'histoire et fait son apparition dans plein d'événements historiques très très connus. Et a vraiment un lien fort avec l'histoire en général.
Thierry Lafleur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Saint-Marin ? Pourquoi la pergola de Saint-Marin ?
Oui, alors Saint-Marin, alors c'est très simple. Hein. C'est très simple et à la fois assez compliqué et assez rocambolesque justement. Enfin, toute l'histoire de ce tableau l'est. Hugues Le Fleuve, donc, naît à Saint-Marin. Ensuite, il vient à quitter Saint-Marin pour justement poursuivre des études. Donc en dehors, il monte à Bordeaux, mais ensuite retour à Saint-Marin. C'est là qu'il se met à la peinture et il va falloir beaucoup d'années, beaucoup de peinture avant justement qu'il peigne cette pergola. Cette pergola finalement qui c'est la seule œuvre pour laquelle il sera reconnu. Aucune autre œuvre de Hugues Le Fleuve aujourd'hui n'est observable. Toutes les autres ont été soit jetées, soit brûlées. Mais voilà, Hugues Le Fleuve. Tout simplement parce qu'il était originaire à Saint-Marin, parce que Saint-Marin lui coulait dans les veines.
Ok, est-ce qu'on a d'autres exemples de tableaux comme ça, d'artistes, qui créent une œuvre et 200 ans plus tard, il ne reste que celle-là parmi toute leur vie d'artiste?
Bien sûr, moi l'image qui me vient en tête, c'est Gandhi, qui a peint le tas de sel, et puis après qui a été connu pour des affaires de politique, mais... Mais voilà, c'est Gandhi n'a peint qu'une seule œuvre et aujourd'hui on ne sait pas s'il en a peint d'autres avant sa carrière en politique.
Alors la légende dit qu'il n'en a peint aucune autre, hein, que c'est justement, et c'est pour ça que l'œuvre est connue. Parce que moi, je l'ai vu, le tas de sel n'a vraiment rien d'incroyable en termes de peinture, ce n'est pas exceptionnel. Mais voilà, le fait que ce soit la seule œuvre qui est peinte Gandhi, voilà, ça en fait quelque chose d'assez... C'est exceptionnel.
Ok, donc pour revenir à notre monsieur Hugues Le Fleuve, voilà. Donc,
j'aimerais quand même notifier que le tas de sel est quand même la première peinture monochrome de l'histoire. Et à ce titre, c'était quand même une révolution au moment où Gandhi l'a peint.
Non, c'est vrai, oui, c'est vrai. Faut le remettre dans son contexte.
Est-ce qu'on peut appeler la monochromie une révolution? Enfin, cette idée, tout le monde aurait pu l'avoir eue. Je suis sûr que beaucoup d'autres gens l'ont eu avant, juste qu'ils n'ont jamais été reconnus pour cela. En effet, la monochromie, voilà, une seule couleur. Pour une peinture, excusez-moi, c'est un peu léger, on ne parle pas de révolution. Voilà.
Chacun son point de vue.
Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, et pour ceux qui ne connaissent pas ce tableau du fameux Tatzel, est-ce que vous pouvez décrire un peu le tableau qui est si particulier ?
C'est un gris. Un gris.
Un gris cassé.
Un gris cassé, presque blanc. Coq d'œuf.
Blanc coq d'œuf.
Ouais. C'est un gris, qui tire vers le blanc. Un gris.
Banal.
Blanchi, un blanc grisé.
Tout à fait.
Ça fait une très bonne transition pour revenir sur la pergola, parce que ce qui est particulier de cette pergola, c'est que le ciel derrière est gris. C'est rare quand même de. Moi, je sais pas, j'ai envie de peindre mon jardin. Je me dis, je vais le peindre quand il fait beau, parce que mon jardin, il est plus beau quand il fait beau. Pourquoi avoir décidé de peindre cette pergola quand il fait gris ?
Ce qui est étonnant dans ce ciel gris, c'est que les historiens sont plutôt tous d'accord pour dire que Saint-Marin était à l'époque la ville la plus ensoleillée de France.
On est au sud de Bordeaux.
Sud de Bordeaux. Ouais. Il fait un ciel radieux tout au long de l'année. Et ce qui est encore plus intriguant, et ce qui fait peut-être un peu tout le mystère, le sel de ce tableau de Hugues Le Fleuve, c'est ce grand ciel gris et cette paire de tongs.
Alors c'est vrai que le mystère reste entier sur à qui appartient...
Appartiennent cette paire de tongs.
Tout à fait.
Ouais. Il
y a eu plusieurs suppositions dans l'histoire. Hein.
Mmh. Et il faut quand même préciser qu'il y a trois personnages de pain sous cette pergola. Deux hommes, une femme. Ils ont tous les trois des chaussures, mais il y a une paire de tongs.
Alors,
qui n'appartient à personne.
Je ne pensais pas qu'on arriverait aussi vite au sujet de la paire de tongs, parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire sur ce tableau, qui a, comme le disait mon collègue Julien, une aventure rocambolesque, à partir du moment où il a été peint. Mais c'est vrai que tout le mystère de ces tongs, c'est quelque chose qui a nourri beaucoup de fantasmes. Il faut savoir que la pointure des tongs était assez conséquente. Les experts donneraient un bon, si je me souviens bien, c'était un bon 49.
Ouais, c'est estimé entre 48 et 51, mais c'est des estimations farfelues pour moi. On est sur du 40.
D'accord, très bien. Et c'est un peu tout ce fantasme autour de cette paire de tongs qui finalement a amené le tableau à beaucoup voyager, à beaucoup bouger, à beaucoup se faire voler aussi. Tout un mystère finalement qui a nourri beaucoup de fantasmes. On y vient maintenant. Après, il y a d'autres choses pour lesquelles ce tableau, justement, est mystique, finalement.
Justement, allons-y sur ces autres choses qui créent ce mystère autour de ce tableau.
Moi, quelque chose dont je voulais parler avec vous, quelque chose dont on parle peu, c'est que, justement, les tongs, amènent ce mystère. Mais pour moi, il y a quelque chose dans le jeu de couleurs et, justement, ce ciel gris, parce qu'on parlait du ciel gris à l'instant, il y a quelque chose d'assez hypnotique, aussi. Un jeu de couleurs dans la façon... Enfin, je sais pas, moi, quand je regarde la pergola de Saint-Marin, je vois des formes, je vois du mouvement, je reste devant le tableau. Il m'est déjà arrivé de rester au Louvre plusieurs heures devant la pergola de Saint-Marin.
Et d'ailleurs, il y a un effet qui a été nommé après ça qui s'appelle l'effet de la pergola de Saint-Marin. Des gens qui tombent dans les pommes après avoir resté plusieurs jours, voire plusieurs heures, sans s'alimenter, sans manger, à s'oublier eux-mêmes, qui font des malaises vagales parce qu'ils sont restés trop longtemps devant la pergola de Saint-Marin, hypnotisés par son ciel et ses nombreux détails.
On a mis en place des positif hein, pour contrecarrer cette problématique.
Et heureusement, parce que
heureusement.
Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 1898, le tableau a été tout simplement retiré de la circulation par justement le conservateur du musée, qui a décidé que plus personne ne verrait la pergola de Saint-Marin, jugée trop dangereuse.
Trop dangereuse.
Trop dangereuse.
Mais on suppose que c'est aussi pour ça que le tableau a été tant volé, et qu'il a laissé sur son passage... une traînée de sang et de fascination. C'est parce que c'est un tableau qui fascine et forcément on a envie de le posséder pour vivre cette expérience qu'est d'être face au tableau de la pergola de Saint-Marin.
Est-ce que le tableau aurait pu être utilisé comme arme ? Je sais que c'est une rumeur, on n'a pas la preuve exacte, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette dimension ?
Alors, oui, le tableau comme arme, comment dire de manière non directe.
Ouais, c'est de la guerre psychologique.
C'est plus de la guerre psychologique.
Voilà. Pas en tant qu'objet contendant.
Bien sûr. On sait que le président...
Pompidou.
Pompidou, voilà. Oui. Le président Pompidou l'avait mis dans son bureau quand il recevait à l'Élysée.
Dans son dos toujours. Hein. Toujours dans
son dos,
dos
voilà, quand il recevait les partis d'opposition.
Voilà.
Les représentants des partis d'opposition qui venaient discuter avec lui dans son bureau et se retrouvaient face à la pergola de Saint-Marin et donc étaient troublés. Évidemment, c'est une pratique qui a été complètement bannie depuis. On a récupéré la pergola de Saint-Marin à Pompidou et non sans mal.
Et Pompidou était le dernier propriétaire de la pergola de Saint-Marin. Parmi les autres illustres propriétaires, pour n'en citer que quelques-uns, on peut citer Abraham Lincoln, Margaret Thatcher, l'astronaute Louis Armstrong. Et effectivement, Pompidou a été transformé par sa possession de la pergola de Saint-Marin et on était devenu agressif à la fin et on a dû lui retirer de force.
Et enfin, pour revenir sur les grands possesseurs, je sais que vous n'en avez pas parlé, je sais que vous faites cette omission. Je sais, voilà, parce que le mystère reste entier, on aime, nous, historiens, garder une part de mystère. Mais quand même, la pergola de Saint-Marin aurait été peinte pour, et finalement, son premier propriétaire, qui serait nul autre que le propriétaire de cette paire de tongs, qui serait Alexandre le Grand. Voilà.
Alors,
ça me paraît...
Non, pour moi, c'est tiré par les cheveux.
D'où la peinture taille 49.
Enfin, elle a été tout de suite vendue à un Anglais. Voilà. Pourquoi Alexandre le Grand l'aurait refusé ?
C'est tiré par les cheveux.
C'est une hypothèse.
C'est vrai que dans l'histoire, il y a eu peu de personnes à faire du 49. Il se trouve qu'Alexandre le Grand est la seule personne qui a été véritablement
illustre
et caractérisé par le fait qu'il faisait du 49. On a retrouvé ses ossements, on sait qu'il avait d'extrêmement grands pieds.
D'ailleurs, Alexandre le Grand, c'est une erreur de traduction. À la base, il s'appelait Alexandre les Grands pour les grands pieds.
En fait, il n'était pas si grand que ça, il avait vraiment juste des grands pieds.
Ouais.
Visiblement, on a vraiment un tableau qui... Voilà, si ce n'est pas une arme, c'est au moins un vrai attribut de pouvoir. Comment aujourd'hui la France s'en sert ? Enfin, c'est pas anodin, la France l'a conservé. Certes, Pompidou ne l'a plus. Il est néanmoins au Louvre, qui est foulé chaque année, on l'a dit, par 10 millions de personnes. Voilà. Quel est l'impact pour un pays comme la France d'exposer un tableau sans être une arme qui est néanmoins dangereux ?
Mon collègue Monsieur Roblin l'a dit, des mesures ont été prises. On a installé des matelas sur le sol pour que les gens puissent, si jamais ils tombent sur leur matelas. On a installé une alarme qui réveille toutes les heures les passants qui regardent. Après, effectivement, c'est pas anodin. On le sait que la France fait ça pour montrer son pouvoir sur le monde. Après voilà, j'ai beaucoup de mal à parler du présent parce que voilà, c'est pas encore dans l'histoire le présent et donc des hypothèses circulent, mais je ne veux pas me rentrer dans les théories du complot qui existent autour de la pergola de Saint-Marin.
On n'est pas là pour faire de la politique. Je pense qu'on sait tous ce que signifie la possession en termes de symbolisme de la pergola de Saint-Marin. On sait tous nos positions géopolitiques. Voilà, on a l'arme nucléaire, on a la pergola de Saint-Marin. Ça fait partie d'une véritable arme de dissuasion aujourd'hui.
Oui, voilà. Et puis le tableau, finalement, assez rapidement, a toujours été plus ou moins politique. C'est-à-dire qu'il comme l'ont dit mes collègues, il a été possédé par des personnages qui ont marqué et qui resteront dans l'histoire. Ce n'est pas un hasard. Enfin, aujourd'hui, je ne pense pas. Enfin, moi, je ne connais pas aussi bien le sujet que Julien, mais je ne pense pas que le tableau ait appartenu à comment on dirait, des nobody. C'est-à-dire des gens dont on ne se souvient pas. On sait exactement qui a eu le tableau et quand.
C'est vrai que même le premier voleur du tableau de la pergola de Saint-Marin, James Sucustur, on en parlait au début, qui avait assassiné le riche noble anglais qui possédait le tableau, a lui-même par la suite été connu, puisqu'il a fondé le parti des travailleurs en Angleterre.
Et on peut se demander, si je peux continuer là-dessus, on peut se demander pourquoi ce tableau, une fois qu'il est arrivé dans les mains d'hommes illustres politiques ou de femmes illustres politiques, comment il passe de main en main ? Pourquoi ? Pourquoi Abraham Lincoln donne ce tableau à Pompidou ?
Alors ça c'est une zone grise de l'histoire aussi.
Bah, c'est une zone grise de l'histoire, mais on ne sait pas la vérité, mais il est de fait que Pompidou, à ce moment-là, une année plus tard, donne en cadeau la somme à l'Amérique.
Oui. Oui.
Et c'est la fin de la première partie de l'émission sur la fameuse pergola de Saint-Marin, le tableau le plus célèbre de l'histoire avec un grand I, mais probablement aussi le tableau le plus dangereux.
Sous la pergola d'où je te vois au milieu des lilas, tu m'apporteras ta douce voix, Palma de Mallorca. Dans ta nostalgie, quand vient la nuit, mon âme s'alanguit. Le parfum léger des orangers viendra pour m'enivrer. Dans ta jolie chanson, c'est la souvenance de mes soirs d'amour, douces illusions qui mènent la danse. Sous la pergola, comme autrefois, je sourirai, je crois, écoutant ta voix qui me versa, Palma de Mallorca. Les vagues blanches qui entendirent nos serments furent témoins de nos dimanches et me rappellent mes 20 ans. Chanson, c'est la souvenance de mes soirs d'amour, douces illusions qui mènent la danse. Sous la pergola, comme autrefois, je sourirai, je crois, écoutant ta voix qui me berça, Palma de Mallorca.
Et je suis toujours accompagné de mes fabuleux historiens Thierry Lafleur, Alexandre Robelin et Julien Marel. Aujourd'hui, le sujet vraiment central dans l'histoire de la peinture, la pergola de Saint-Marin. On s'est quitté avant la pause musicale où on écoutait Tino Rossi avec le fameux morceau tiré de la peinture sous la pergola, justement. Voilà, on a parlé de l'impact de la peinture dans le contexte historique, même dans le contexte, on va dire, politique à l'heure actuelle. Il y a malgré tout des gens qui n'ont pas vu ce tableau, et c'est normal, ils ne sont pas forcément allés au musée. Est-ce qu'on peut passer du temps un petit peu pour le décrire? On a mentionné les trois personnes, on a mentionné la paire de tons. Je pense aussi à ce fait étrange, c'est que la pergola elle est orientée est, monsieur Thierry.
Oui, la pergola aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la pergola a été détruite aujourd'hui, et donc elle a été détruite pendant la guerre. Enfin, je dis la pergola, la maison tout entière a été détruite. Cette pergola, en effet, était orientée est, donc pour une habitation qui est vraiment au sud de Bordeaux, je le rappelle, ce n'était vraiment pas optimal. On a en plus donc ce ciel gris, comme vous le disiez. Après, moi, je m'y connais peu en art, ou je suis un amateur, on va dire. Et pour moi, Hugues Le Fleuve a vraiment voulu montrer justement ce côté. C'est pas si ouf le sud. Enfin, j'en sais rien, je...
Ouais, mais pourtant, les trois personnes qui sont sur le tableau, c'est des personnes qui nous sourient.
Oui, oui, oui.
Ouais, c'est vrai, mais c'est effectivement une hypothèse que, comme la peinture a été... certains supposent pour Alexandre le Grand, certains supposent pour ce noble anglais, peut-être que l'anglais qui vivait dans la grisâtre de l'île solitaire, voulait un aperçu du sud qui ne vienne pas lui mettre, comme on dirait aujourd'hui, le spleen, et donc il a voulu qu'on lui représente un sud gris pour pas qu'il se sente lésé. Effectivement, les personnes nous sourient, mais c'est un sourire un peu coquin, c'est un sourire qui cache des choses. D'ailleurs, on a appris beaucoup plus tard l'identité des personnes qui sont sur le tableau. C'était tous les trois des artistes de cirque. dont un qui a fondé par la suite le cirque Zavata, cofondé. Mmh. Et ces trois artistes de cirque nous regardent, nous sourient, mais on sent, comme le sourire de la Joconde, un sourire un peu mystérieux, un sourire un peu coquin, qui en sait plus qu'il n'en montre. Et
on parle même de détresse. Un sourire de
un sourire de détresse, c'est quand même intéressant comme concept.
Il y a eu des papiers d'éminents psychologues qui étudient le tableau et qui parlent de sourire de détresse.
Qu'est-ce que ça veut dire du coup quand on est peintre et qu'on prend trois artistes de cirque, certains disent que ce sont des amis proches, on les met sur un tableau, on les fait sourire, mais version détresse, derrière un ciel gris dans une pergola orientée est.
C'est là où Hugues Le Fleuve se retrouve un petit peu maintenant dans nos jours contemporains un petit peu compromis, c'est que on pense que le tableau a été fait sous la
contrainte d'une arme.
Sous la contrainte d'une arme.
Mais d'ailleurs, il y a ce détail du petit arc de cercle en bas du tableau que d'aucuns sous le jour de ces informations interprètent comme étant le canon d'un pistolet pointé vers les personnes qui auraient été peint dans le tableau par Hugues Le Fleuve. Donc voilà, il y a cet arc de cercle, cette forme un peu sombre en bas du tableau qui laisse à penser, qui pose des interrogations.
Voilà, mais ça c'est... Enfin voilà, là on est sur... on est justement sur une vision, parce qu'il faut quand même qu'on parle à nos auditeurs de la façon dont était vu le cirque à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une vision du cirque qui est très joyeuse, très, très ambiance fête foraine. À l'époque, le cirque, c'était vraiment un endroit malfamé où sévissaient les pires truands. Voilà, il faut le savoir ça, il faut le savoir que le cirque, ce n'était pas du tout un endroit agréable à l'époque en 1433.
C'était même, je rajouterais même, c'était triste. On allait au cirque quand on était malheureux, quand on voulait, c'est l'équivalent d'écouter une chanson triste aujourd'hui. On allait au cirque quand on n'allait pas bien, quand on avait besoin de voir le mauvais côté du monde. Et d'ailleurs, les couleurs rouge et or du cirque sont arrivées via le cirque Zavata, qui a été fondé par justement une des personnes sur le tableau. Mais avant ça, les couleurs du cirque, c'était gris, grisâtre et noir, quoi.
Ok, donc il y a ce tableau-là qui est vraiment particulier, avec la paire de tongs, on l'a mentionné, les trois personnes, l'orientation est, et cette dimension du cirque qui n'apparaît pas explicitement, vous l'avez rappelé, on a mis du temps à comprendre quelles étaient ces personnes. Peut-être des amis, je vous voyais Monsieur Thierry hocher de la tête en disant « Ah, c'est pas sûr les amis ».
Oui, sur les amis, alors en effet, donc Hugues Le Fleuve habitait donc avec Monsieur Zavata, et donc ces deux autres personnes qui ont également cofondé le cirque, mais qui n'étaient pas Zavata, hein. Si je ne me trompe pas, Julien, reprenez-moi
m'égare. Non, c'était des amis qui n'avaient rien à voir.
Voilà, et donc en fait, ils habitaient ensemble, donc à Saint-Marin, donc voilà, on pourrait penser que, voilà, en termes de colocation, c'était des amis. Ensuite, donc comme le disait Monsieur Robelin, au vu de ce que disent les psychologues, on sentait quand même une tension, surtout si une arme était pointée. On ne sait pas si c'était... On pense que c'est quelqu'un du cirque, parce que comme je vous le dis, le cirque, c'était dur à l'époque. Donc voilà, on dit des amis aujourd'hui parce qu'ils habitaient ensemble, mais étaient-ce vraiment des amis ? Pourquoi n'ont-ils rien fait lorsque cette arme était pointée sur Hugues Le Fleuve ?
Était pointée par Hugues Le Fleuve.
Par Hugues Le Fleuve.
Par Hugues Le Fleuve.
Par Hugues Le Fleuve, sur les artistes de cirque qui sont représentés sur le tableau.
Effectivement, c'est une relation qui n'est pas très amicale présentée sous ce jour-là.
Mais d'ailleurs, on peut se demander, est-ce que les artistes de cirque... Parce qu'on peut spéculer que Hugues Le Fleuve n'aimait pas les artistes de cirque et c'est pour ça qu'il pointait une arme sur eux. On peut aussi spéculer que les artistes de cirque n'aimaient pas Hugues Le Fleuve en retour, parce que, en fait, sur la photo, on les voit en train de prendre un apéritif sous la pergola de Saint-Marin. Mais on voit clairement qu'il n'y a que trois verres sur la table. Ils n'avaient pas servi de verre pour Hugues Le Fleuve. Même qu'ils habitaient ensemble.
Donc trois verres, c'est-à-dire qu'il manque au moins le verre, enfin pour le peintre, ou pour au moins le regard de celui qui regarde le tableau, et pour le possesseur ou la possessrice des tongs.
Exactement.
Et j'y pense. Les tongs. Ils sont peut-être à Hugues Le Fleuve.
Alors, effectivement, alors ça c'est une erreur classique que beaucoup de gens ont pensé au cours de l'histoire. C'est une explication qui a été mise en avant, mais qui est complètement farfelue. Hugues Le Fleuve, et c'était de notoriété publique, et ça a été écrit dans sa biographie, chaussait du 32. Il avait des tout petits pieds.
Alors, il chaussait du 32. Alors, moi je suis d'accord avec Monsieur Roblin. Moi, c'est une théorie qui m'amuse un peu, et que j'aime beaucoup. C'est que cette paire de tongs,
aurait été offerte à Hugues Le Fleuve en guise de blague, car il avait des très petits pieds. Et justement, aurait été offerte par les artistes de cirque, qui derrière auraient justement nourri cette rivalité, qui aurait finalement débouché sur justement des menaces et cette ambiance un peu macabre dans la pergola de Saint-Marin.
Alors ça, c'est vrai que c'est une théorie très intéressante dans l'histoire. L'autre théorie, mais qui que je trouve encore plus farfelue, c'est que Hugues Le Fleuve, n'assumant pas ses petits pieds, aurait peint ses paires de tongs avec 17 poissures de plus qu'elle n'avait réellement. Et donc il aurait peint des trucs plus grands pour faire croire qu'il avait des plus grands pieds que dans la réalité.
En fait, donc tout ce tableau qui aujourd'hui, des centaines d'années plus tard, tout ça pour un complexe de taille de pied.
Voilà, mais après, voilà, encore une fois, c'est des spéculations. Là, on n'est pas dans le domaine de l'histoire, on est dans le domaine de...
Mais voilà, c'est intéressant parce qu'on est quand même toujours dans des jeux de domination, des jeux de pouvoir, des jeux de vraiment genre, dire ce que l'on est alors qu'on ne l'est pas. C'est vraiment ça que raconte le tableau encore aujourd'hui dans le contexte géopolitique mondial.
Bien sûr, bien sûr.
Et qu'est-ce que le tableau veut dire pour monsieur et madame tout le monde qui le voient, qu'est-ce que ce tableau veut leur dire sur leur vie?
Waouh. Vous l'avez vu?
Ben, je l'ai vu, je suis tombé dans les pommes justement sur les matelas que vous mentionnez, bien pratique.
Moi, j'ai justement, c'est ça le problème, j'ai l'impression que monsieur, madame, tout le monde, comme vous le dites, on va vraiment être focalisé sur cet effet hypnotique, alors qu'en effet, en y regardant de plus près, on y voit finalement une mise en garde. Moi, la pergola de Saint-Marin, pour moi, c'est une mise en garde de ce que peut être le monde, de ce que ne doit pas être le monde, une pergola orientée est.
Un tableau comme une mise en garde, un avertissement dans la vie, le tableau de la pergola de Saint-Marin, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois pour cette émission qui arrive elle aussi à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour notre émission de l'histoire avec un grand I.
C'était l'histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.